Vous écoutez KTO Radio, il est 14h.
Bonsoir à tous. Comment arrêter la spirale de violence au Nigeria? La question peut se poser. Plusieurs attaques depuis Noël dans l'état du Plateau, dans le centre du pays, ont fait des centaines de morts, majoritairement chrétiens. Selon l'ONG Portes Ouvertes, le Nigeria est aujourd'hui le pays qui a le plus de chrétiens tués ou kidnappés. Mais ces violences ne touchent pas que les chrétiens et ont plusieurs visages, celui de Boko Haram et de l'État islamique, mais aussi celui de conflits entre éleveurs, peuls, musulmans et agriculteurs, souvent chrétiens, ou encore du banditisme. Comment l'Église soutient la population éprouvée au service de la paix? On va en parler dans un instant avec notre invité, le père John Suakor, qui est nigérian. Mais pour commencer, quelques repères. Situé en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée, le Nigeria est frontalier avec le Bénin, le Cameroun et le Tchad. Sa capitale est Abuja. Pays le plus peuplé du continent africain, il compte environ 219 millions d'habitants. Sur le plan religieux, on estime qu'il y a 45% de musulmans, 45% de chrétiens et 10% d'autres religions. Le nord du pays, c'est-à-dire au-dessus d'Abuja, est essentiellement musulman, tandis que le sud est à majorité chrétienne. Tout de suite, je retrouve notre invité. Père John Suakor, merci beaucoup de nous rejoindre le temps de cette émission. Alors, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes originaire de l'état de Benue, qui se situe au centre du Nigeria. Vous avez été ordonné en 2006 pour la SMA, la Société des Missions Africaines. Vous avez notamment été chargé de l'animation missionnaire pour les SMA dans tout le nord du Nigeria et vicaire en paroisse. Depuis 2014, vous êtes missionnaire en France. Après le diocèse de Nantes, vous voici dans la région de Montpellier, où vous êtes curé de la paroisse Pic Saint-Loup, Haute-Garrigue. Merci de nous avoir rejoints. On va vouloir comprendre un petit peu avec vous ce qui se vit au Nigeria. C'est un pays qu'on suit ici sur KTO depuis longtemps. Il y a eu cette flambée de violence à Noël, ces attaques dont on a entendu parler assez largement dans les médias, ces violences qui ont frappé l'état du Plateau dans le centre du pays du 23 au 26 décembre. Près de 200 personnes, la plupart chrétiennes, ont été tuées par des terroristes dans 26 villages. Des milliers de personnes ont fui pour trouver refuge, notamment dans des églises. Alors que s'est-il passé et quelle est la situation humanitaire des déplacés? On écoute l'analyse du père Andrew Dewan, qui est directeur des communications du diocèse de Pangshin, où ont eu lieu la plupart des attaques.
Ce à quoi nous avons affaire va bien au-delà d'un simple conflit entre agriculteurs tel qu'on le connaissait auparavant. Il revêt une dimension terroriste assumée, car les chrétiens et leurs lieux de culte, leurs propriétés, sont spécifiquement visés et détruits. À l'heure où je vous parle, nous sommes toujours confrontés à un grand nombre de déplacés internes, des survivants du conflit et des personnes qui ont fui leur village par crainte d'autres attaques. Et leurs craintes sont légitimes, car plusieurs attaques ont été perpétrées depuis celle de la veille de Noël, qui ont, elles, été médiatisées dans le monde entier. En ce moment, dans le gouvernement local de Bokkos, l'épicentre de l'attaque de Noël, nous avons environ 18 000 déplacés internes au sein de 13 bâtiments différents pour la grande majorité des églises qui accueillent les déplacés et survivants. Les églises se voient attribuer la responsabilité de nourrir et d'approvisionner ces déplacés. Les chrétiens sont de plus en plus frustrés. Nous en sommes donc arrivés à un point où nous, chefs religieux, sommes incapables de les empêcher de vouloir se défendre. Nous avons toujours prôné la paix, mais dans combien de temps l'atteindrons-nous si l'État ne prend pas les mesures nécessaires pour protéger les citoyens?
Voilà, je précise, Père, depuis ces jours-ci, d'autres attaques ont eu lieu les 23 et 24 janvier. Au moins 55 personnes ont été tuées et des écoles, des lieux de culte et des maisons incendiées dans la région de Mangou. Père, on a le sentiment que finalement, Voilà, il y a des attaques qui reviennent, qui se succèdent. Il y a eu ce drame autour de Noël. Pourquoi le Nigeria en est là aujourd'hui, père ?
Bon, c'était arrivé la veille de Noël, mais ce n'est pas la première fois. Mmh. Parce que si on remonte sur l'historique de ces attaques, mmh. on peut dire que dans les années 80-84, il y a eu un mouvement islamique qui était arrivé dans l'état du Kaduna pour convertir par force tout le monde. Et c'était aussi des violences très sanglantes. Et puis, dans la région des Jos, effectivement, en 2001, il y a eu des crises, des violences, et on comptait plus de 7000 personnes tuées. Et au Nigeria, depuis 1999, il y a eu un gouverneur d'un État, l'État de Zamfara, qui avait déclaré son État comme l'État des charia, la loi charia qui
la
doit régner sur
doit s'appliquer.
La Constitution. Voilà. Et au moins 10 États du nord du Nigeria avaient pris la suite de l'État de Zamfara pour instituer la loi islamique dans leurs États au-delà de la Constitution.
Alors, il y a la question, effectivement, de la charia, de l'islamisme qui est là. Hein. Il y a des groupes djihadistes qui opèrent au Nigeria, mais c'est une violence qui est multiforme, hein, puisqu'on entend parler de conflits aussi, des conflits séculaires entre les éleveurs, de l'ethnie Peul et souvent musulmans, avec les agriculteurs chrétiens dans le sud. Il y a le banditisme, on entend parler de kidnapping. Finalement, elle est multiforme, cette violence.
Oui, quand on parle de ces violences, c'est-à-dire qu'on utilise d'autres moyens pour masquer l'enjeu.
C'est quoi l'enjeu, justement ?
Soit de la religion, mmh. soit des conflits éleveurs-agriculteurs, juste pour masquer l'enjeu. L'enjeu, c'est de prendre la terre des autochtones.
Donc c'est ça, finalement, le cas le plus courant, c'est des histoires de conflits sur des terres.
Sur les terres, mmh. sur les terres. Parce que nous sommes dans une zone, une région très riche en sous-sol. Des ressources minérales.
Quel type de ressources, oui.
Voilà. Et dans la région de Jos, effectivement, où il y a eu cette violence, mm. depuis 1904, qu'il y a eu des mines d'étain qu'on avait laissées à cause des découvertes de pétrole au sud du Nigeria. Aujourd'hui, comme le monde parle encore des pierres précieuses, on revient à miner là où on avait laissé. Donc il y a du thym, de l'or et d'autres pierres précieuses qu'on trouve dans cette région en grande quantité. Donc le programme, c'est de chasser les gens de leurs terres pour avoir des mines illégales. Et je donne un bon exemple. Dans l'état de Zamfara, qui est au nord-ouest du Nigeria, l'ancien gouverneur avait dit qu'il allait vendre de l'or à l'état nigérian. Et ça n'a pas eu lieu parce que ceux du Sud disaient que si vous vendez de l'or, qui est la richesse du pays, nous on va vendre aussi du pétrole à l'État. Donc l'État doit acheter ses ressources. C'était ça. Mmh. Donc la région du centre, c'est une région très riche en sous-sol. Donc le prétexte, c'est soit conduit à une violence agriculteur éleveur ou se cacher derrière la religion. Pour chasser les gens de leur terre, c'est ça.
Alors, est-ce que les chrétiens ont peur ? Est-ce qu'ils vivent dans ce climat de peur ?
C'est-à-dire que c'est une tension en continu. Personne ne sait ce qui peut arriver le lendemain. On dort avec un œil fermé, parce qu'il faut se lever très tôt pour fuir quand il y a des attaques dans la nuit, parce que la sécurité n'est pas assurée par l'État. Effectivement.
Oui, cette peur, elle ne touche pas que les chrétiens, puisque, on le disait, hein, ces violences, elles touchent aussi les musulmans, les adeptes de religions traditionnelles. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont touchés au Nigeria, il faut le préciser. Père, dites-moi, si on en revient aux chrétiens, quel est le quotidien des chrétiens dans le pays et peut-être dans la région où vous connaissez?
Voilà. Les chrétiens, souvent, sont les gens qui conduisent à la paix. Comme le Père vient de dire, malgré tout, on cherche la paix. On prêche la paix, on cherche à vivre en paix avec les voisins, soit musulmans, soit de la religion traditionnelle. Parce que c'est ce que nous interpelle notre foi. Vivre dans l'harmonie et la paix. Sachant que ce qui vient pour mettre les gens mal à l'aise vient de loin. Ce n'est pas les gens qui sont les habitants réels des villages. Il y a des bonnes cohabitations entre tout le monde.
Entre les différentes religions.
Oui, ça ne pose pas de problème. Parce que dans une famille, on peut trouver toujours des gens de différentes religions. Et dans nos villages au nord du Nigeria, par exemple, il y a les chrétiens qui sont dans une partie du village, les musulmans dans l'autre partie, il y a des mosquées, il y a des églises. Et les gens se respectent, les fêtes sont fêtées ensemble. Voilà.
Donc la cohabitation quotidienne, finalement, elle fonctionne plutôt bien.
Oui, oui.
Et la situation des chrétiens, entre le nord et le sud, c'est différent. Alors le sud est majoritairement chrétien.
Oui, le nord avait connu l'islam bien avant la colonisation, à cause du commerce entre les Arabes et les nordistes. La foi chrétienne est arrivée par la côte. Donc, depuis longtemps, il y a eu beaucoup de chrétiens dans le sud, parce que le sud est majoritairement chrétien. Et ce n'est pas les mêmes effets. Voilà. Ceux du nord, on trouve beaucoup de musulmans dans les familles où il peut y avoir des chrétiens. Mais dans le sud, c'est carrément les chrétiens. Si on trouve des musulmans, peut-être c'est des nordistes qui sont partis travailler ou s'installer dans le sud du pays.
Alors, Père, dans ces violences, il y a des prêtres aussi qui sont visés, il y a des enlèvements fréquents, on s'en fait l'écho, nous, ici, sur notre antenne, il y a parfois des assassinats de prêtres, et malgré tout, les vocations restent nombreuses. On a envie de se demander, finalement, mais voilà, pourquoi des jeunes aspirent à devenir prêtres au Nigeria, aujourd'hui?
D'abord, bon, par la foi, les jeunes voient leur appel baptismal aller en mission. En mission envers leurs frères. Et comme il y a beaucoup de chrétiens, surtout au sud, il y a beaucoup de vocations. Parce que les gens disent que, voilà, si je suis même martyr, que je sois le martyr aimé par Jésus. Donc je vais être là pour ma communauté de foi. Voilà. Donc ça conduit beaucoup de jeunes à se donner encore dans les séminaires.
Voilà. Vous en êtes un exemple, Père, justement.
Oui, mais aussi j'étais chargé de vocation, donc je voyais beaucoup de jeunes qui toquaient à nos portes pour pouvoir aussi donner leur vie en témoignage de ce qu'ils croient.
Et justement, comment les former, les accompagner dans ce contexte particulier du Nigeria pour correspondre aux besoins de la mission?
Voilà, quand un jeune arrive, d'abord, on lui fait passer par un psychologue. C'est pas parce qu'il est malade, non. Mais pour lui aider dans sa situation de vie. Si un jeune arrive, par exemple, de cette région, qui a des violences en continu, on sait qu'il peut être traumatisé. Donc, il faut passer par un psychologue pour voir son état de santé avant de continuer sa formation. Et pendant la formation, on a aussi à faire des matières interreligieuses. On apprend aussi de vivre ensemble avec des personnes d'autres religions. Il y a des cours d'anthropologie pour aider les jeunes aussi à se situer là où il est. Voilà, donc pour les former, c'est ça qu'on fait.
Et comment les violences, elles ont impacté la mission de l'Église? Alors, je parlais d'enlèvement, parfois d'assassinat, enfin de violences extrêmes, mais est-ce que ça impacte le quotidien du fonctionnement de l'Église?
Il y a des endroits où les églises n'existent plus. Des villages où il y avait une bonne communauté vivante qui n'existe plus. Mais ça renforce toujours la foi de ces personnes soient déplacées de leur village, soit d'autres qui les accueillent en solidarité pour continuer à vivre leur foi. Donc il y a une grande solidarité qui est sur place entre les chrétiens qui reçoivent et les personnes qui sont là pour être aidées. Les gens qui donnent leur vivre, qui partagent leurs habits, l'essentiel de la vie, pour les personnes qui fuient cette violence.
Alors, on a parlé de ce constat de violence, et on le comprend, les chrétiens, mais plus généralement la population du Nigeria souffre. Mais on va aussi parler d'espérance avec vous, Père, et d'initiatives pour la paix. L'Église et les associations travaillent sur le terrain auprès des populations pour favoriser le vivre ensemble. Félix Dimka, humanitaire et chef de projet à la Commission Justice et Paix du diocèse de Pangshin dans l'État du Plateau, nous explique la démarche.
L'un des principaux moteurs de ce violent conflit dans l'État du Plateau est l'aspect religieux qui a toujours été un problème majeur pour nous, plus particulièrement entre les chrétiens et les musulmans. Mais au fil des ans, nous avons fait de notre mieux en tant qu'organisation en menant des activités interconfessionnelles en faveur de la paix dans les communautés. Partout où des violences de ce type font rage, nous nous rendons dans les communautés après le retour à la normale et l'une des principales activités interconfessionnelles que nous menons est le projet Alternative à la violence. Cela consiste à nous rendre dans les communautés touchées. Nous animons ensuite un atelier durant lequel les gens se réunissent. On s'assoit, on discute et on instaure un dialogue avec eux sur la nécessité d'une coexistence pacifique. Dans la plupart des endroits où nous nous sommes rendus, nous avons mis en place un cadre qui leur permet de continuer à travailler et à sensibiliser sur la nécessité de prendre soin les uns des autres et de vivre en paix et en harmonie tous ensemble.
La paix, il y en a beaucoup des initiatives comme ça, de rassembler les communautés. Comment concrètement favoriser la paix? Qu'est-ce que vous avez, vous, expérimenté, Père?
Moi, quand je travaillais dans l'État de Kaduna, un jour, il y avait des problèmes, des soucis dans un village. Et puis, nous avons eu un gardien de nuit qui était attaqué en représailles, parce que les gens devaient se défendre. Donc, lui, il était musulman. Il y avait un jeune du village qui était venu nous dire, « Père, j'ai vu que le gardien est attaqué. Il y a du sang. Les gens l'ont eu dans la nuit. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose ?» Donc, on était allé le chercher, pour le cacher chez nous, pour le soigner, faire venir les infirmières, pour le traiter. Et quand il était bien, il était avec les séminaristes qui commencent les formations. Quand il était bien, on l'avait pris pour l'amener dans sa famille qui n'était pas dans ce village. Ça, c'est de notre côté. Mais il y a aussi un exemple de l'évêque de Yola, qui est au nord-est du Nigeria. Voyons ces victimes de Boko Haram qui ont fui, qui étaient réfugiés à la cathédrale. Il avait demandé des terrains à l'État d'Adamawa, qui lui avait accordé 10 hectares, où il avait construit des appartements pour héberger tout le monde. Et les chrétiens et les musulmans ont construit en même temps, sur ce terrain, une mosquée et une église, pour que tout le monde puisse avoir accès à son lieu de culte. Donc, on voit toujours des situations où on pouvait aider les gens. On ne veut pas savoir si c'est des chrétiens ou des musulmans. Voilà.
Et on a compris aussi qu'il y avait ces tentations de vengeance. Le père Diwan en parlait, de ces chrétiens blessés. Aujourd'hui, l'Église, elle est sur le pont, elle est sur le front pour mener ses actions auprès des communautés qui souffrent. Voilà. Elle est en première ligne, l'Église.
Oui, l'Église est en première ligne. Oui. Avoir au moins 5000 églises brûlées, 2200 écoles incendiées et plus de 5 millions de déplacés au sein du pays, c'est pas ce que l'Église veut pour ses enfants. On a eu dans le passé le feu archevêque de Kaduna, Jato, quand il y avait trop de violence à Kaduna, il avait dit, bon, il n'y a plus de jours à attendre. Et c'était la fin des violences. Donc il y a toujours cette tentation de dire, bon, comme l'État ne peut pas, parce que depuis que les violences ont commencé, on n'a jamais dit que ce sont les financiers ou ceux qui attaquent que l'État a pris pour mettre à la justice. Donc il y a cette tendance de dire, bon, on doit se défendre. Sachant que nous avons aussi nos frères avec nous qui ne sont pas coupables. Donc il ne faut pas prendre l'aiguille et le poisson avec.
Il ne faut pas faire d'amalgame.
L'amalgame, voilà.
Alors, il y a un acteur de paix aussi, on peut signaler son sa mission, c'est le cardinal John Onayekan, hein, archevêque d'Abuja, qui vient de fêter ses archevêques émérites, ses 80 ans.
80 ans, oui.
Qui a eu un rôle important aussi. Hein.
Oui, oui, oui. Il travaille avec les chefs des musulmans au pays. Mais il n'est pas le seul. Il y a aussi l'évêque Mathias Nkuka, du diocèse de Sokoto, qui est très vif dans ses dialogues interreligieux. Voilà. Donc au niveau national de l'Église, nous avons ces deux figures qui sont très vives dans le dialogue interreligieux.
Ouais. Merci beaucoup, Père John Swakor, pour votre éclairage. On va continuer à suivre, bien sûr, la situation au Nigeria. Et on poursuit tout de suite avec un bref tour d'horizon sur d'autres informations. En RDC, plusieurs villages dans la région de Beni, dans l'est du pays, ont été attaqués le 30 janvier par des rebelles ADF affiliés au groupe État islamique, rapporte Vatican News. Au moins 8 personnes ont été tuées, dont 5 en prière dans une église pentecôtiste. Une trentaine d'autres personnes ont été prises en otage par les assaillants. L'instabilité dans la région dure depuis 30 ans. Soulignons que les évêques congolais, rwandais et burundais qui étaient réunis fin janvier à Goma, capitale du Nord Kivu, ont appelé d'une seule voix à la fin de la guerre dans l'est du pays. Et puis toujours en RDC, un prêtre qui s'était présenté aux élections législatives et a été élu député dans la circonscription de Lomela dans la province de Sankuru, s'est vu rappeler par l'évêque du diocèse de Kolé l'interdiction, selon le code de droit canonique, faite aux clercs d'exercer des charges publiques de l'État. L'église protestante en Allemagne, le cas des secoués par des abus sexuels. Une étude rendue publique le 25 janvier à Hanovre recense plusieurs milliers de victimes. La présidente de l'EKD, l'évêque Kirsten Fers, s'est dite choquée par ce rapport de près de 800 pages qui fait état d'au moins 1259 auteurs présumés et de 2225 victimes au sein des 20 églises que forme l'EKD. Mais ce nombre pourrait être beaucoup plus élevé. Tout de suite, c'est la chronique du monde. Et on retrouve Sœur Juliette Mguetta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena, au Tchad.
Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays de Toumaï. Toumaï qui veut dire espoir de vie en langage chrétien. Nous parlerons de l'espérance chrétienne. Cette fois-ci, nous allons parler de la journée mondiale de la vie consacrée telle qu'elle est vécue au Tchad en lien avec les religieux et les religieuses, bref, les personnes consacrées. Les personnes consacrées au Tchad font un travail formidable de formation, d'éducation, dans le domaine de la santé, bref, dans tous les domaines où le besoin se fait sentir avec urgence. Ces personnes consacrées œuvrent avec leur identité qui est l'accent mis sur la vie religieuse, l'accent mis sur la vie communautaire, les vœux, pour faire grandir la personne humaine dans la formation intégrale, en assumant toutes les parties de la dimension humaine. La vie consacrée, le thème est vécu en lien avec le groupe de jeunes de vocation de différentes paroisses, à savoir la synodalité, en lien avec l'église locale, l'église internationale et toutes les personnes avec qui ces religieuses et ces personnes consacrées travaillent. Ce qui est ressenti, c'est œuvrer en parole, en acte, par un témoignage de vie religieuse qui va faire susciter d'autres vocations pour l'amour de Dieu.
Merci Sœur Juliette. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site ktotv.com, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve jeudi prochain avec plaisir. Au revoir. We'll be right back.
écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir. Seul désir est de vous.
écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. On est dans le temps de l'épiphanie, on est aussi encore dans le temps de Noël, de la joie de Noël, et moi je vous offre la présence de Don Samuel. Bonjour Père.
Bonjour.
Alors on a eu le plaisir de vous avoir en plateau il y a quelques années.
5 ou 6.
On est heureux de vous retrouver.
Moi aussi.
Donc l'émission va être un petit peu différente, on va moins refaire la chronologie de votre histoire, de votre vocation, mais on va pas mal s'appuyer sur votre livre « Et la nuit devient lumière ». La joie du Christ dans les ténèbres de nos vies est publié chez Arthège, qui correspond pas mal au temps que nous vivons. On va en parler dans 2 minutes. Juste avant, nous vous écoutons.
Une légende russe en milieu orthodoxe raconte que Dieu envoie toujours l'ange de la mort pour prendre l'âme d'un agonisant. Il arrive parfois qu'au dernier moment, l'ange soit rappelé et que l'homme survive. Mais l'ange a les ailes couvertes d'yeux. En s'en allant, il remplace les yeux de cet homme qui a presque traversé la mort, mais en est revenu, par des yeux qu'il prend sur ses ailes. Et l'homme désormais voit autrement, avec la mémoire de la mort, avec la mémoire de Dieu, avec un détachement infiniment paisible, et une tendresse de tout l'être.
Mais Père, qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Je lisais il y a quelques mois la Philokalie. La Philokalie, c'est ce recueil de textes monastiques, mm-hmm. avec une introduction d'Olivier Clément. Il raconte cette histoire. Mm-hmm. Et il m'a semblé que c'est un bon pont par rapport au thème de mon livre pour l'introduire. À la fois parce qu'il vient du milieu monastique, qui est ma vocation, mmh. et en même temps parce qu'il parle de quelque chose qu'on vit ces temps-ci de manière assez forte, quoi.
Mais rassurez-moi, vous n'avez pas fait une expérience de mort imminente, Père ?
Non, je n'ai pas fait d'expérience de mort imminente, mais je suis abbé dans un monastère où il y a des jeunes. Mmh. Ils m'apprennent à mesurer au jour le jour les limites. Quelquefois, je n'arrive pas à les rejoindre. J'ai pourtant quelque chose à leur transmettre. Ils écoutent, j'essaye de les écouter, quelquefois j'y arrive pas, et quelquefois c'est difficile. Et on vit aussi dans un monde autour de nous, donc la République tchèque est à quelques centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne.
Oui.
Il y a comme dans notre pays, comme partout, des réfugiés de ce pays-là. J'ai un très bon ami qui est prêtre catholique byzantin en Ukraine. On porte un peu tout ça sur nos épaules de moine dans la prière, et puis dans notre vie de tous les jours.
Alors pour repréciser un peu pour les téléspectateurs, vous êtes à Novi-Dvur.
Je suis à Novi-Dvur.
Dvur.
Voilà.
Qui est une fondation de...
De l'abbaye de Seyfon. Voilà. Je suis rentré à Seyfon en 1983. J'y ai passé en gros 20 ans. Et après la révolution de velours, des Tchèques sont venus recevoir une formation à Seyfon, et je suis reparti avec eux. Le monastère a fêté au mois d'août de l'année dernière son 20e anniversaire. Voilà. Nous sommes 25. Il reste 2 Français. Je suis maintenant tchèque.
D'accord. D'accord. Et vous êtes dans un pays de tradition post-communiste
Oui.
Où on voit encore aujourd'hui les séquelles de...
Disons, ça fait presque 30 ans.
Oui.
On est dans un pays européen, vraiment européen.
Oui.
Avec, disons, la vague qui nous recouvre, qui nous noie un peu moins, disons.
D'accord.
La vie est plus, je ne sais pas comment dire, plus saine, plus familiale, plus simple, peut-être.
Mais le matérialisme, la sécularisation, tout ça, vous connaissez ?
Oui, on connaît, mais justement, avec d'un peu plus loin D'accord. que la France.
Et j'imagine que là-bas, vous avez entendu aussi ce qui ébranle notre Église mondiale et aussi l'Église nationale avec...
Oui, comment dire, l'Église qui est en France, l'Église qui est en Tchéquie se ressemblent. Mm-hmm. On traverse aussi les mêmes obscurités.
Qu'est-ce que vous avez voulu nous raconter dans ce superbe livre ?
J'ai rien voulu raconter, mais... Donc, j'ai cette expérience que écrire me permet d'entendre la parole de Dieu. Dans un monastère, il y a une pièce qui est destinée à la lecture. Elle s'appelle Scriptorium, non pas Legendorium. Mm-hmm. Les moines autrefois recopiaient des manuscrits, et les moines aujourd'hui recopient quelquefois des passages de la Bible ou des passages des livres qu'ils ont lus.
Il y a quelques citations d'ailleurs dans le livre.
Oui.
Tout votre livre d'ailleurs est émaillé de passages de la Bible.
À droite et à gauche.
On sent que vous la mâchez tous les jours.
Et c'est vrai que, bon, il m'arrive d'avoir des insomnies. Quand on les tourne devant Dieu, c'est quelquefois des endroits où on se met à comprendre des choses, mm-hmm. quand on les porte un peu dans la prière. Et écrire me permet d'aller plus au fond de ce que Dieu me propose que simplement lire.
Et la nuit devient lumière.
Alors un jour, j'étais en voyage, ça m'arrivait un peu trop. Je récitais donc l'office avec un psautier en français, parce que dans mon monastère, on récite l'office en tchèque, que je comprends bien, mais pas aussi bien qu'en français. Et un jour, je trouve cette phrase, qu'en fait, j'avais jamais entendue, même si ça fait presque 40 ans que je suis au monastère. Donc, et j'ai dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Pour toi, la nuit n'est pas ténèbres. Et ça m'a bouleversé, comme quelquefois il y a des paroles de Dieu qui vous touchent très profondément. Et je me suis mis à réfléchir sur mes propres nuits, qui ne sont pas que les miennes, qui sont aussi les nuits de l'Église, ou les nuits de la société contemporaine, ou de la culture d'aujourd'hui, pour essayer de voir comment ces nuits peuvent-elles devenir lumière. Parce que c'est pas la lumière qui chasse la nuit, comme on peut l'imaginer, comme ça se passe tous les matins quand le soleil se lève, c'est la nuit elle-même qui devient lumière. Ça veut dire que, au fond de... Alors, n'utilisons pas trop des mots spirituels, au fond de nos difficultés, au fond de nos épreuves, au fond de nos échecs, est-ce qu'il n'y a pas de la lumière qu'on peut chercher ? Voilà. C'est un peu le thème de mon livre.
Alors, on peut la chercher, est-ce qu'on peut la trouver ?
Voilà, on la reçoit, c'est clair. Il y a un mot du père Jérôme, qui est moine de Céphon, qui est mort en 1985, donc que j'ai connu pendant les toutes premières années de ma vie monastique, qui parle du désert, qui est un thème très biblique, très monastique. Il dit...
C'est le lieu du combat.
Il dit ceci, il dit... au désert, les échecs sont mortels, or nous aurons des échecs, donc il faudra mourir. Voilà.
Vous l'entendez comment ?
Je l'entends que, précisément, on vit quand même un peu dans une culture de la réussite. Et pourquoi pas, je veux dire, quand c'est possible. Mais il y a aussi peut-être une manière de voir les moments difficiles, et les moments difficiles de l'Église d'aujourd'hui, entre autres, de telle sorte qu'on y découvre une lumière qui sera un point d'appui beaucoup plus fort, beaucoup plus stable, sur lequel on pourra construire quelque chose, parce qu'en fait, bien sûr, ça ne viendra pas de nous, mais ça viendra de Dieu. Et ce changement de regard dont parle cette légende russe, à savoir l'homme qui va presque mourir, parce que bien sûr, l'homme qui meurt après, il rencontre le Seigneur, c'est fini, mais on n'y est pas encore. Donc, l'homme qui va presque mourir et qui, dans cette expérience, change de regard et se met à recevoir de l'ange de Dieu, c'est pas lui, des nouveaux yeux avec lesquels il pourra voir la tendresse de Dieu.
Alors, est-ce que vous êtes mort de cette mort-là ? Et est-ce que vous êtes mort plusieurs fois ?
Comment dire, je ne suis pas mort encore, mais c'est vrai que d'année en année, disons, la pratique de la vie monastique m'a appris à regarder les difficultés que je rencontre, qui sont ni pires ni plus légères que celles que tout le monde rencontre, chacun dans son mode de vie, mais de les lire avec cette espèce de regard très positif qui fait que, encore une fois, même si c'est rude, même si quelquefois c'est dur, même si quelquefois il faut pleurer, mais ces larmes deviennent des larmes de joie. À la fin de la rédaction de ce livre, je cherchais un passage que je voulais corriger sur mon ordinateur, donc avec des recherches. Je savais qu'il y avait le mot « joie » dedans, donc je tape « joie » et je vois 99 citations dans le livre. Donc un livre qui parle de la nuit, qui, 100 fois, cite le mot « joie ». Donc, probablement, comment dire, ça veut dire que, de fait, ça peut marcher.
Alors, parmi les gens qui nous écoutent, en ce moment, la nuit, ils savent ce que c'est, l'obscurité, ils savent ce que c'est, la solitude, ils savent ce que c'est. Ils sont troublés par ce qu'ils entendent, par ce qu'ils voient. Alors, il y a l'actualité, on parlait de la guerre, on peut aussi parler de l'euthanasie, on peut parler aussi de la sexualité qui ne se vit pas si bien que ça dans notre société et dans l'Église aussi, qui fait partie de la société. Hein, ce n'est pas quelque chose à part. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces gens-là? Vous dites, oui, oui, dans la ténèbre, il y a de la lumière, mais on ne la trouve pas tout de suite.
Bon, parlons.
Je vous invite à pleurer déjà.
Oui. Parlons de l'obscurité la plus grande pour les chrétiens, si vous voulez. Je m'y étais un peu préparé, parce que si ma vie de prière peut encourager d'autres, pourquoi pas. En fait, dans mon livre, je raconte mon parcours. Mm-hmm. C'est-à-dire, et je pense, un parcours qui est celui de tout le monde. Au début, c'est pas vrai. Non, ils exagèrent. Et puis... avec le temps, il y a quand même quelque chose. On ne peut pas laisser, comment dire, cette chose de côté. Quelque chose qui se passe. Et puis, on se met à comprendre un peu mieux les victimes. Et puis, on se dit, mais moi, j'aurais pu faire ça. Je me rappelle, j'espère que j'en ai pas parlé il y a 6 ans quand on a parlé ensemble, un jour, un frère qui lisait un livre qui s'est déroulé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui m'a dit « Si j'avais été nazi quand j'avais 19 ans, si j'avais été allemand quand j'avais 19 ans, est-ce que je serais pas devenu nazi ?»
Ben oui.
Et je lui ai dit « Mon vieux, là ça y est, comment dire, t'es au bon endroit. T'as les pieds sur terre. » Et au terme de ce parcours qui a duré 10 ans, et de ce chapitre qui m'a demandé plus de 3 mois de travail et que j'ai rédigé avec l'appui de 2 psys, de 2 prêtres, pour me relire, d'un journaliste également. Je me suis dit ceci, 3 mots, compassion, crainte, confiance. Compassion, c'est quoi la compassion? C'est ce mouvement du cœur qui excelle dans le cœur de Dieu et qui excelle dans le cœur du Christ. Le cœur qui s'élargit à la souffrance des autres. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable quand même de prendre un tout petit peu de ce qu'ils portent? Et pour ça, j'ai lu 4 ou 5 bouquins, j'ai mis les meilleurs en note dans mon livre. Des victimes qui racontent, certains qui pardonnent, d'autres qui n'y arrivent pas.
Abus spirituel, abus sexuel dans un cadre spirituel.
Alors attention, oui, faisons attention à ne pas tout assimiler. Quelquefois, on parle des abus d'autorité, ça existe, il faut faire attention, comme si ça allait jusqu'à l'abus sexuel.
Oui, oui. Bon.
Mettons, je dis ça aussi dans mon livre.
Distinguons.
Respectons les catégories pour ne pas mettre le même poids de gravité sur tous les problèmes. Parce que c'est quand même pas tout à fait pareil de pousser un coup de gueule et puis de faire un peu peur à celui qui, sur lequel on a autorité et puis de... Bon. Donc, d'abord, compassion. Essayez que la souffrance des autres, réellement, comment dire, elle rentre dans notre cœur. Deuxièmement, la crainte. Je pourrais faire pareil. Et la crainte, comment dire, Saint Benoît dit que la vie monastique ou la vie spirituelle consiste à passer de la crainte servile à la crainte filiale. La crainte de l'enfer à la crainte de déplaire à Dieu qu'on aime et qui nous aime. Donc, que cette crainte ne soit pas une peur. Parce que précisément, je pense que ce qui fait beaucoup, beaucoup de mal à l'Église aujourd'hui, c'est la peur. On a peur. Ça s'est un peu calmé maintenant, mais dans les premiers temps, moi, quand je voyageais dans les aéroports ou dans les trains, toujours en habit, je sentais que les gens me regardaient de travers, quoi. Et quand il y avait un gosse qui approchait, avant je mettais une petite croix sur le front, puis j'osais plus. Parce que... n'ayons pas peur, quoi. Mais la crainte de déplaire à celui qui nous aime et de blesser les autres, ça c'est fort. Et puis la confiance. La confiance, c'est quoi ? C'est l'histoire de l'Évangile, celui qui construit sa maison sur le roc ou celui qui construit sa maison sur le sable. Si on construit l'église qui est en France sur le génie des évêques, des prêtres et des moines, c'est du sable.
Ben oui.
Si on construit l'église qui est en France ou en République tchèque ou en Europe ou partout où vous voulez, sur le Christ qui est le roc, sachant qu'on a un ministère à accomplir, on a une responsabilité à assumer, on a quelquefois besoin de se remonter les manches, et il faut le faire avec beaucoup de zèle. Mais attention, c'est pas moi qui suis le roc, c'est le Christ qui est le roc.
Oui.
Et Saint Baudouin de Ford, un père cistercien de la génération de Saint Bernard, un peu plus tard, il parle de ça, le Christ qui est le roc, et puis il dit, Seigneur, quelquefois le roc, c'est dur. C'est vrai que c'est dur, le roc. Donc c'est solide, mais quelquefois aussi, se tenir sur le roc ou s'asseoir sur le roc ou se confronter au roc, quelquefois c'est dur. Okay.
Donc votre relecture de tous ces scandales, que ce soit dans les communautés nouvelles ou dans l'église institutionnelle, on va dire, nous rappelle qu'en fait c'est le Christ qu'il faut regarder.
Je dirais, moi, que... Bon, ma communauté a 20 ans et une demi-année maintenant. Il y a l'âge des moines, qui ont entre 80 et 22. Et puis il y a l'âge de la communauté, l'âge du tonneau dans lequel on met l'alcool pour que ça devienne du cognac. Mm-hmm. 20 ans, c'est la post-adolescence, quoi. Donc on a traversé aussi des crises. Des crises qui venaient quelquefois d'erreurs de l'abbé, quelquefois qui venaient de la docilité des frères, et puis des événements. Et ces crises nous ont mûri. Faut pas avoir peur quand on est parent, quand on est père dans une communauté monastique, de laisser les autres un petit peu faire l'expérience de la chute. Faire leurs propres expériences. Et là-dedans, comment dire, on acquiert une maturité. Et quelquefois la nuit, ou le désert, ou les difficultés, appelez ça comme vous voulez, la nuit est un lieu qu'on traverse et où l'on meurt si on est seul et où l'on grandit si on le traverse avec le Christ. C'est l'image, bien sûr, de Deutéronome, enfin, dans tous les premiers livres de la Bible, de la traversée du désert.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le mal caché ?
Alors, le mal caché, c'est une expérience personnelle. Donc, un frère qui m'a lu, il y a 25 moines à Novi-Dvour, et s'il y en a 3 ou 4 qui m'ont lu, c'est bien un maximum. Ça ne les intéresse pas trop que le père abbé écrive des livres. Bon, il le tolère, c'est mon problème. Mais un moine qui m'a lu m'a dit, c'est un peu comme saint Augustin, ton bouquin. Bon. Je ne peux pas comparer, comment dire, ce livre-là, qui est un essai très... avec les Confessions de Saint-Augustin, qui sont l'un des plus grands livres de l'histoire chrétienne.
Le style m'a paru plus accessible que Saint-Augustin.
Oui, peut-être.
Et qui suis-je, Seigneur, pour que tu t'intéresses à moi ? Mais qui suis-je ? Où vais-je ? À quoi ?
Plus contemporain. Mais, comment dire, c'est un peu la même démarche. C'est-à-dire, et d'ailleurs je me suis inspiré de Saint-Augustin, et je le cite quelquefois, c'est-à-dire que j'essaye de faire une relecture de la façon dont Dieu me guide dans mon quotidien, pour essayer de tirer quelque chose de ce qu'il a à me dire, et ensuite de le partager avec les autres. Le mot « communion », on a l'impression que derrière, il y a « cum » et « union », mais ce n'est pas ça. Il y a « cum » et « munis ». Il y a une charge à assumer ensemble. « Munus ». Ça veut dire que la communion dans l'Église catholique, dans l'Église, et d'une certaine façon d'ailleurs, la communion qui peut exister dans une société entre tous ceux qui se battent pour que la société soit vivante, elle vient du fait qu'on a une responsabilité à assumer ensemble et une tâche à assumer ensemble. Et dans cette tâche, quelquefois, on fait l'expérience de nos limites, c'est clair. Et cette expérience, si on l'accepte, elle nous grandit.
Mal caché, plus précisément ?
Alors, je m'étais un peu perdu. Donc, dans ma tâche d'abbé, bon, c'est pas terrible non plus. Donc, une belle communauté de jeunes qui en veulent. La communauté était jeune. Il y avait des choses qui n'allaient pas. On avait un peu perdu la joie, justement. Et je voyais pas pourquoi. Et je pense que ça venait simplement du fait que j'étais pas tout à fait capable d'écouter. Les générations se succèdent très très vite maintenant. Et entre ceux qui sont rentrés à l'abbaye de Ceffonds quand j'étais jeune prieur, puis qui m'ont accompagné en Tchéquie, ceux qui sont rentrés au monastère dans les premières années, ceux qui rentrent aujourd'hui, c'est vraiment trois univers complètement différents.
Oui.
C'est pas les mêmes personnes. Dans les familles, j'imagine que c'est pareil. Et donc j'avais du mal à comprendre ce qui se passait. Et c'était rude parce que on fait la vaisselle tous les jours après le repas, c'est un moment qui est agréable, puis ça devenait tendu. On avait un peu perdu la joie. Puis, moi, c'est pas grave, mais quand c'était avec mes jeunes frères... Et alors, j'ai vraiment demandé à Dieu, montre-moi le mal caché. Puis j'ai vu. J'ai vu qu'en fait, j'écoutais pas assez. Que j'arrivais pas à entendre ce qu'il me disait. Quoi.
Mmh. Et oui, coup, c'est écouter et comprendre. C'est...
Écouter et entendre.
Oui.
C'est-à-dire... que en tchèque, le mot écouter, c'est la même racine qu'obéir. D'ailleurs, en latin aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va obéir à tout ce qui nous est dit, mais il y a une manière d'écouter, il faut que ça rentre à l'intérieur. C'est comme la compassion dont je parlais en commençant.
C'est la règle de Saint-Benoît aussi.
Oui, écoute mon fils, bien sûr. Et alors, à partir de là, tout s'est retourné, enfin, d'un seul coup, quoi. Et j'ai trouvé... un article de Ratzinger, à l'époque, qui commente ça et qui commente un psaume et qui m'a permis de faire une théologie, disons, sur cette expérience que j'avais faite pour qu'elle puisse être lisible par d'autres.
Ce que j'ai bien... Alors, on arrive quand même à la fin de l'émission.
C'est ce que je vois.
Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est... de rappeler à tout un chacun de ne pas trop mettre la poussière sous le tapis.
Non.
Et de un peu se désensibiliser. Genre, ouais, c'est pas grave, voilà, et puis d'autres le font, et puis à la fin d'être soi-même la mesure de ce qui va pas, ce qui est bon, ce qui est pas bon, et parce qu'on s'aveugle et on va gentiment dans le mur.
Ça, vraiment, ça marche pas. Mmh. Enfin, vérité et amour marchent ensemble. Ça, c'était le thème du livre sur lequel on avait parlé. Il faut voir clair, quoi.
Notamment avec un beau chapitre sur la sexualité.
Oui, parce que, si vous voulez... Bon,
Les moines comme pour les couples,
oui,
hein, ou les célibataires.
J'ai aussi des jeunes frères, comment dire, et ils en parlent, et puis ils m'aident à comprendre des trucs. Il faut regarder la réalité en face, pas avoir peur de se dire les choses, et à partir de là, on comprend mieux, et quand on comprend mieux, on réagit mieux. Et quand on réagit mieux, quelquefois, il faut pleurer. Mais le chapitre qui parle des abus dans l'Église, qui n'a pas été le plus facile à écrire. Je l'ai terminé dans l'église de mon monastère un dimanche. C'était une solennité. L'organiste jouait de l'orgue. Moi, j'aime beaucoup la musique. J'étais un peu musicien dans ma jeunesse. Je me suis mis à pleurer. Et j'ai écrit, mais ces larmes étaient des larmes de joie. Parce que précisément... les larmes pour les moines dans la tradition monastique, c'est le moment où on se retrouve devant Dieu tel qu'on est, pas tellement comme on voudrait être, mais tel qu'on est, avec la conscience que Dieu nous aime tel qu'on est.
Et c'est lui qu'on appelle au secours, et c'est « Seigneur, viens me sauver, j'y arrive pas tout seul ».
Et c'est lui qui vient.
Voilà.
Et comment dire, comme il vient, là on se trouve sur le roc.
Avec le cœur brisé.
Avec le cœur brisé, mais en même temps on est debout. Parce que c'est ça qui compte. Il ne s'agit pas de se coucher.
Quoi. Et là, on peut repartir, redémarrer, et tout en regardant ses limites, ses faiblesses et autres, arrêter de dire « c'est pas grave », mais essayer de reconstruire.
Je dirais même, à ce moment-là, on oublie les faiblesses, on continue à construire, c'est quelque chose qui est aussi fondé sur la persévérance. On voit Mais ce qu'on voit, on voit nos limites, mais ce qu'on voit cesse d'être important, ça cesse de nous détruire, parce qu'on le voit, et en fait ça nous construit, c'est là que la nuit devient lumière.
Merci Père, on arrive donc à la fin de cette émission, vraiment. D'habitude je pose trois questions avec mes cartes, mais vous, comme on est au temps de l'épiphanie, je vais vous demander de me dire trois cadeaux que vous donneriez à la France, vous qui vivez loin là-bas, avec les Tchèques. Qu'est-ce que vous auriez envie d'offrir ?
Simplicité, famille, simplicité au sens de ne pas trop chercher le confort, famille, ne pas oublier qu'on a un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, et que là, il y a des liens qui sont très très importants. Et le troisième, nature. Novitvour est dans un paysage admirable. Quelquefois, le brouillard recouvre tout, et puis il se lève. Mmh. Et quand le brouillard se lève sur une belle nature, on comprend que la nuit peut devenir lumière.
Merci beaucoup, Père. Je rappelle le titre de votre livre, « Et la nuit devient lumière, la joie du Christ dans les ténèbres de nos vies » par Don Samuel aux éditions Artege. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous partager cette lumière. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Merci à l'équipe qui a permis de la réaliser. Vous pouvez retrouver ce programme sur notre site ktotv.com. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.